celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera exalté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur nous propose la parabole de ceux qui s'empressent à la première place dans les banquets. Il pense aux pharisiens qui sont autour de lui et dont il a vu plusieurs fois la scène, de gens qui se disputent pour avoir la place la plus honorable. Et il dit à ses apôtres, vous ne devez pas agir ainsi, mais lorsque vous êtes invités, recherchez plutôt la dernière place, de façon à ce que lorsque le maître de la maison vienne, si vous étiez monté trop haut, vous ne soyez obligé de redescendre jusqu'à la dernière place pour votre confusion, tandis que si vous êtes à la dernière place et que le maître vous fait remonter plus haut, vous en aurez tout l'honneur. Il est bien évident que c'est l'intention qui dirige nos actes qui a de l'importance. S'il nous fait remarquer Saint Basile, on se disputait pour avoir la dernière place, eh bien, on en reviendrait exactement au même défaut que les pharisiens qui se disputaient pour avoir la première. Car ça serait la dernière selon le monde, mais l'autre serait la première selon la vertu. Et comme on voudrait être le premier en vertu, eh bien, ça reviendrait à un orgueil beaucoup plus dangereux parce qu'il serait beaucoup plus caché de se disputer pour avoir la première place vertueuse. Et Saint Basile nous fait remarquer que d'autant plus si on nous demandait de monter plus haut et que par fausse humilité on refuse, eh bien par cet entêtement on montrait beaucoup plus d'orgueil qu'en acceptant la place que le maître de maison veut bien nous donner. Alors qu'est-ce que veut dire notre Seigneur quand il nous dit visez plutôt la dernière place? Il veut pas nous demander de la fausse humilité, il veut nous demander d'avoir l'habitude de savoir nous abaisser, de savoir nous mettre au-dessous des autres, mais ce qu'il attend de nous, c'est que simplement nous soyons le plus discrets et le plus abandonnés possible à sa volonté. Quand il nous dit « mettez-vous à la dernière place », c'est-à-dire « mettez-vous là où il reste de la place, sans chercher à vous imposer à l'une ou l'autre ». Et de là, eh bien, c'est l'occasion de faire une leçon sur l'humilité. L'humilité, c'est l'opposé de l'orgueil. On comprend bien souvent une vertu par le vice qui lui est opposé. Or, l'orgueil, c'est la racine de tous les péchés, puisque parmi les 7 péchés capitaux, l'orgueil tient la tête. C'est celui qui a la racine et au fondement de tous les autres. Et si on réfléchit bien, c'est effectivement parce qu'on a une pensée exagérée envers nous-mêmes que on peut prendre tous les autres péchés capitaux, qu'on aura de l'envie par rapport à quelqu'un qui sera au-dessus de nous et qu'on estimera devoir être en dessous, ou que on s'estimera lésé dans nos biens quand on verra quelqu'un de plus riche, etc. Et on peut prendre chacun des péchés capitaux, même la luxure, le mensonge, c'est parce qu'on s'estimera tout permis à soi, parce que c'est moi. Donc l'orgueil est la racine de tous les péchés, de tous les vices capitaux. Par conséquent, la vertu qui va lui être opposée, à savoir l'humilité, est une vertu fondamentale et très importante. Elle va être le blocage, justement, de tous les vices. Quelqu'un qui sera vraiment humble, eh bien, sera porté à toute la vertu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'humilité? Le mot latin humilitas, ça vient de humus. Et l'humus, vous savez ce que c'est que l'humus? C'est la terre. Et autrement dit, qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est la qualité de celui qui reconnaît qu'il n'est que de la terre, de la poussière devant Dieu, principalement devant Dieu. Et c'est pourquoi notre Seigneur, quand il a créé l'homme, Il aurait pu le faire de rien du tout, il aurait pu le faire à partir de n'importe quel autre élément. Il a voulu exprès prendre de la poussière pour nous montrer que devant lui, nous sommes que de la poussière. Et c'est aussi pourquoi le jour du Mercredi Saint, l'Église nous le rappelle, « Souviens-toi, homme, que tu es poussière, tu as été tiré de la poussière, tu n'es rien devant Dieu, et que tu retourneras en poussière, parce qu'effectivement, notre corps, eh bien, retournera en poussière. » Et là, on voit toute l'inanité de ceux qui donnent une trop grande culture à leur corps, et qui, de toutes sortes de manières, le dorlote, le en plein soin continuel, et passe des heures à s'occuper de leur corps, ne serait-ce qu'en lui donnant le repos qui est nécessaire la nuit, en le nettoyant comme il faut, en le soignant, en lui donnant ce qu'il faut à manger, des choses qui sont toutes nécessaires et absolument indispensables, mais qui doivent être faites que dans la mesure où elles sont utiles pour l'âme, car effectivement, sinon on n'entretient que de la poussière. Les pères nous disaient même d'une façon plaisante que celui qui nourrit trop son corps, eh bien, en quelque sorte, engraisse un cochon pour les vers qui sont dans le sol et qui mangeront toutes les graisses et tout ce qui dépasse et il n'en restera rien. Donc l'humilité, nous sommes de la poussière. Umi litas, c'est aussi umi yachere, c'est-à-dire être jeté au sol ou être tenu au sol pour montrer aussi que devant Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas résister à la puissance de Dieu. Alors, la principale qualité de l'humilité, c'est de se reconnaître tel que l'on est. De même que la vérité consiste à reconnaître ce qui est dans le monde, les choses telles qu'elles sont, eh bien l'humilité consiste à se reconnaître soi tel que nous sommes. Et encore une fois, devant Dieu, nous ne sommes rien du tout, nous sommes un peu de poussière. Et si nous prenons par rapport à l'éternité, qu'est-ce que c'est que la vie de l'homme, nous dit le psalmiste? Quelques jours, quelques heures. Mais par contre, l'humilité, ce n'est pas non plus de vouloir se rabaisser à tout prix et de dire des choses qui sont fausses, soi-disant pour se mettre à la dernière place. Il ne s'agit pas de cela. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, en substance, si je suis une rose, eh bien, il n'y a pas d'orgueil à dire simplement que je suis une rose. Et il serait stupide de vouloir me déclarer un bleuet ou une violette, alors que je sais très bien que je suis une rose ou une tulipe. Donc il ne s'agit pas de se rabaisser, mais il s'agit de se voir tel que l'on est. Nous avons des qualités, nous avons des défauts, et il faut les voir avec véracité, avec lucidité. Eh bien, l'humilité, elle est absolument indispensable quant à notre mauvais côté. Elle est absolument indispensable pour se bien confesser, d'une part, et pour faire des progrès, d'autre part. Car pour bien se confesser, eh bien, il faut reconnaître qu'on est un pécheur. Si on ne reconnaît pas qu'on est un pécheur, eh bien, on ne peut pas se bien confesser. On accusera des choses sans vraiment penser que c'est un mal. Et donc, sans s'accuser soi-même. D'autre part, si on s'aveugle sur soi-même, et qu'on ne veut pas voir ses mauvais côtés, ses vices, eh bien, on ne pourra jamais les corriger. Parce que pour pouvoir corriger ses vices, il faut d'abord savoir que l'on en a, et il faut savoir que c'est tel et tel. Pour porter le fer sur la plaie. D'autre part, pour ce qu'il y a de bien en nous, eh bien, il faut le reconnaître avec simplicité. Mais là, en quoi va consister l'humilité? Ça va être à reconnaître que ce sont des dons que nous avons reçus. Saint Paul nous le fait remarquer. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Et si nous l'avons reçu, pourquoi s'en glorifier comme si ça venait de nous, ou comme si nous l'avions acquis par notre propre mérite? Alors, le principal bien de l'humilité, ça va être de non seulement se reconnaître tel que l'on est, mais de s'accepter tel que l'on est. Pourquoi? Parce que les trois quarts des choses que l'on a en nous, elles nous viennent de Dieu. Si on considère la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux, la grandeur, la stature de notre taille, eh bien tout cela, ça ne vient pas de nous. De même, le fait d'être très intelligent ou d'être peu intelligent ou d'avoir une jambe plus courte que l'autre, d'avoir les yeux chassieux, le fait d'être à moitié paralysé, le fait d'être né mongolien, ou au contraire avec des dons de musique extraordinaires. Eh bien, tout cela ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Alors, en quoi va consister l'humilité? Elle ne va pas consister à dire « Moi, je suis un boiteux » ou « Je suis un chassieux », alors que l'on sait très bien qu'on ne l'est pas. Elle va consister à reconnaître en nous les dons de Dieu et à rendre grâce à Dieu. Elle va consister aussi à accepter de la main de Dieu l'état dans lequel nous nous trouvons. Et quand tout va bien, quand nous sommes en santé, quand nous avons des belles qualités, nous avons une belle forme de corps, une belle forme de visage, eh bien, de l'accepter, ça va pas être très difficile. Maintenant, de le rendre à Dieu, ça sera déjà plus difficile, et c'est là que va travailler l'humilité. Mais si j'ai un visage difforme, si j'ai un œil qui ne voit pas, ou même les deux yeux qui ne voient pas, si je suis en pleine santé, mais que voilà que je suis renversé par une voiture et je me trouve paralysé dans un siège roulant, j'y suis pas pour grand chose, je n'ai même pas, c'est même pas de ma faute, je n'ai pas fait d'imprudence, eh bien je dois accepter en tout et pour tout l'état dans lequel je suis né. Saint Jacques Chrysostome le fait souvent remarquer. Ce qui compte, c'est pas d'être né d'un roi ou d'un empereur, ou même d'être né d'un saint ou d'un savant, ou d'être né du plus humble des artisans. Ce qui compte, c'est la vertu de chacun devant Dieu. Et au contraire, plus on est dans des difficultés, plus on est dans des circonstances désavantageuses pour nous, et plus c'est vertueux. C'est ce que nous rappelle encore Saint Grégoire ce matin en commentant le livre de Job. Il nous dit « Quel mérite y a-t-il à être bon avec les bons ?» Il y en a, bien sûr. Et il serait beaucoup plus coupable d'être mauvais au milieu des bons. Mais par contre, d'être bon au milieu des mauvais, alors c'est beaucoup plus méritoire. Non pas qu'on ait à s'exposer au mal pour gagner plus de mérite, non. Mais là où l'on est, eh bien, on a, selon les grâces d'état que l'on reçoit, selon les dons que l'on a reçus, on a un rôle à remplir. Si dans un jardin, il n'y avait que des roses, ça ferait une belle roseraie, ça ne serait pas désagréable, mais ça ne serait pas aussi varié que dans un jardin où il y a des tulipes, où il y a des bleuets, où il y a des gentianes, ou toute autre sorte de fleurs. Si dans un jardin, il n'y avait que des pommes de terre, ça aurait une certaine valeur, mais il ne serait pas aussi riche que s'il y a des potirons ou s'il y a toutes sortes de légumes. Si dans une forêt, il y a diverses espèces d'arbres, la forêt en aura plus de beauté et plus de valeur. Eh bien, dans le monde, Dieu a voulu qu'il y ait chacun à sa place des catégories différentes, et ces catégories sont faites pour se corroborer et s'entraider les unes aux autres. Alors, on est porté à regarder toujours au-dessus de soi et à dire, bien, ceux qui sont nés dans une famille royale, tout est plus facile pour eux. Eh bien, tout est plus facile pour eux sur le plan matériel, certainement. Quand ils sont dans une famille vertueuse, sur le plan spirituel aussi, mais quand ils sont dans une trop grande richesse et qu'ils sont tentés à se laisser porter au vice et à la corruption, car souvent, s'ils ne se donnent pas eux-mêmes, à ceux qui leur sont soumis, eh bien, ils peuvent se laisser aller très facilement à ne rien faire, et ne rien faire, c'est la mère de tous les vices. Et quelqu'un comme Saint-Louis de Gonzague, ce n'est pas porté par les vertus de sa famille sur le moment de son entourage qu'il est devenu un saint. Certes, il y avait de la vertu dans ses familles, sinon il aurait été éduqué comme un païen. Mais néanmoins, cette vertu-là était esclave de bien et bien des passions. Et c'est uniquement par la grâce de Dieu qu'il a su, en réagissant contre cela, devenir Saint-Louis de Gonzague. Et Sainte Germaine Cousin, Sainte Germaine de Pibrac, cette pauvre petite fille à qui on donnait à peine du pain, et que sa seconde mère considérait presque comme une esclave, eh bien, elle n'a jamais rien fait d'extraordinaire. Elle a accepté la place où Dieu l'avait mise, et elle s'est sanctifiée d'une manière extraordinaire. Saint Joseph, il n'a pas fait des merveilles. On ne rappelle aucun miracle de Saint Joseph, mais on dit par contre, Dieu lui dit, va, prends l'enfant et fuis en Égypte. Joseph se leva, il prit l'enfant et fuit en Égypte. Et à plusieurs occasions, on nous rappelle les paroles de Dieu et l'action de Saint Joseph. Et il y a une correspondance extraordinaire entre l'une et l'autre. Eh bien, Saint Joseph est certainement, après la Sainte Vierge, le plus grand saint. Et qu'a fait la Sainte Vierge Marie? La très Sainte Vierge Marie, elle est restée infiniment humble. Elle est restée à faire sa tâche de tous les jours. Et c'est ça qui l'a grandi devant Dieu. Car les voies de Dieu ne sont pas les mêmes que les voies des hommes. Alors l'humilité, c'est accepter la condition dans laquelle Dieu nous a mis. Et Job nous disait encore ce matin, si nous acceptons de Dieu les biens, pourquoi n'en acceptons-nous pas les maux? Et lui, qui a servi Dieu dans une immense richesse, il a servi Dieu aussi sur un tas de fumier couvert de plaies. Eh bien, ça, c'est admirable. Car souvent, dans telles conditions de vie, on est prêt à servir Dieu de tout son cœur. Il suffit que pour une petite chose, même si c'est une vie très humble, il suffit que pour un petit point, on ait été contrarié. Voilà telle personne à laquelle j'étais attaché. Et alors là, je servais Dieu de tout mon cœur. Et puis, Dieu me l'a enlevé, alors je suis en révolte contre Dieu. Eh bien, il y a là quelque chose qui est tout à fait contraire à l'acceptation de l'état et des circonstances dans lesquelles Dieu nous met. Donc, voyez, cette vertu d'humilité, elle est une avec l'acceptation de la volonté de Dieu. Alors, quelqu'un qui sera profondément humble, eh bien, il ne lui sera pas interdit de se mettre en avant quand il faut, car il y a des moments où il faut se mettre en avant. Et alors, quelquefois, on est choqué en écoutant les épîtres de Saint Paul. Alors, j'ai été trois jours au fond de la mer, j'ai été lapidé trois fois, j'ai été martyrisé dans telle ville, on m'a laissé pour mort, ceux-ci sont juifs, mais je le suis plus qu'eux. Ils sont apôtres, eh bien, je ne le suis pas moins qu'eux. Et ils ont travaillé, eh bien, j'ai travaillé encore plus qu'eux. Alors, on se dit, mais où est l'humilité dans un personnage comme saint Paul? Et pourquoi saint Paul dit-il cela? Parce que, au moment où il parle, il faut que vis-à-vis de telle et telle personne, il se mette en avant pour que son témoignage soit reçu avec autant d'autorité que celui des autres. Et c'est là, bien sûr, quelque chose de beaucoup plus délicat. Et c'est pour ça, il ne manque pas de dire, souvent dans ses épîtres, je parle en insensé, mais c'est vous qui m'avez obligé à me mettre en avant. Et il ne manque pas, à d'autres moments, de dire, je suis même pas digne, je suis le plus petit des apôtres, et même je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Il rappelle ses péchés quand il faut. Et on en a un autre exemple extraordinaire, c'est le grand saint Augustin, un des plus grands docteurs de la Sainte Église. Eh bien, il a écrit le livre de ses confessions, et où il raconte d'une façon bien sûr très discrète, parce qu'il ne s'agit pas d'étaler ses péchés et d'être objet de scandale, mais il raconte, il s'accuse vraiment de toute sa vie passée, et je dirais que plus encore que les confessions, il a fait quelque chose d'extraordinaire à la fin de sa vie. Lui, ce grand docteur, presque incontesté et incontestable, eh bien, il s'est rendu compte à la fin de sa vie que sur tel et tel et tel point, il avait dit des choses qui étaient inexactes. Il fallait corriger. Eh bien, il a eu le courage, lui, le grand docteur, d'écrire un livre des rétractations. Et il dit, voilà, à tel endroit, j'ai soutenu telle et telle chose. Eh bien, j'ai manqué de nuances, et voilà comment il faut comprendre les choses. Donc, vous voyez, c'est à la fois cette humilité qui sait reconnaître les dons de Dieu, qui donc leur faisait qu'ils n'avaient pas peur de parler, et même quelquefois de se porter en avant, et qui en même temps renvoie, n'ont pas peur non plus d'accuser leurs fautes et leurs défauts, et renvoie tout à l'honneur de Dieu. Eh bien, regardez la très sainte Vierge Marie. Elle ne va pas dire que le bon Dieu l'a laissée sans grâce. Non. Elle va dire, mon âme exalte le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a fait en moi de grandes choses. Elle n'a pas peur de dire que Dieu, en elle, a fait des grandes choses. Seulement, elle le redonne à Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a dit à l'ange au départ? Voici la servante du Seigneur, elle vient de recevoir l'annonce qu'elle allait être la mère de Dieu, la plus haute dignité qu'aucune créature ne pourra avoir jamais. Eh bien, elle se rabaisse aussitôt, voici la servante du Seigneur, et remarquez qu'il me soit fait selon votre parole. Donc vous voyez à la fois comment l'humilité est un rabaissement, bien sûr, devant Dieu, tout en reconnaissant ce qu'on est, bon et mauvais côté, et en même temps et surtout un abandon à la volonté de Dieu, qu'il me soit fait selon votre parole. Eh bien, cette humilité, elle nous est précieuse à nous aussi, parce que nous aussi, nous avons un passé de péché, sinon nous ne serions jamais confessés, mais aussi parce que nous aussi, nous avons reçu des grandes grâces et nous en recevons encore tous les jours. Eh bien, ces grandes grâces, il faut les reconnaître, ce n'est pas rien que quand on est abandonné de tout, qu'on n'a plus de sacrements, on tient encore et on reste fidèle à Dieu. Ce n'est pas rien d'y voir clair.